Circulaire Talks, le podcast de ceux qui font l'économie circulaire, créé par Circulaire en partenariat avec Courrier Cadre. Dans ce nouvel épisode des Circulaire Talks, Raphaël, cofondateur de Circulaire, et moi, Alexia, avons le plaisir d'accueillir Anna Baïlez, la fondatrice et CEO de Leezy, une start-up de l'économie circulaire qui propose aux géants du retail une plateforme digitale de location en SaaS avec un suivi logistique des produits, et Perrine Scholl, Innovation Project Manager chez Leroy Merlin. Toutes les deux nous ont raconté comment elles ont réussi à mettre en place le service de Leezy chez Leroy Merlin. Des premiers échanges à la mise en place d'un test, il leur aura fallu seulement 3 mois. Elles nous expliquent pourquoi Leroy Merlin a eu envie de tester ce service et comment elles ont réussi à co-construire le projet ensemble pour qu'il voie le jour et quels sont les résultats attendus. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Anna et Perrine.
Bonjour Alexia.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Alexia.
Nous sommes ravis avec Raphaël de vous accueillir, Anna et Perrine, pour ce nouvel épisode des Circulaire Talks. Avant de commencer, Raphaël, pour la petite histoire, tu m'as expliqué en préparant ce podcast que tu connaissais Anna. J'aimerais bien que tu me racontes en fait dans quel cadre vous vous êtes rencontrés, comment vous vous connaissez.
Eh ben, on s'est rencontrés avec Anna en 2016. À la genèse de Circulaire, il y a un tour du monde pour rencontrer des entrepreneurs et entrepreneurs de l'économie circulaire. Et on a commencé ce tour du monde par la Belgique. Et on nous a parlé d'une pionnière de l'économie de la fonctionnalité et de la location de vêtements. On nous a dit qu'il y avait une start-up qui s'appelait Telmi, qui louait des vêtements pour femmes enceintes et bébés et qu'il fallait qu'on aille la rencontrer. Et donc, on allait rencontrer Telmi. On a découvert Anna, qui, à l'époque, louait des vêtements pour femmes enceintes et bébés. Et elle a été pionnière dans cette économie de la fonctionnalité.
Très bien. Et aujourd'hui, Anna, tu es fondatrice et CEO de Leezy. Tu nous expliqueras tout à l'heure ce qu'est Leezy. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, Raphaël, comment vous travaillez aujourd'hui avec Leezy?
Alors, avec Anna et Leezy, je pense qu'on travaille à plusieurs niveaux, à 3 niveaux. Le premier, c'est au niveau de la formation et de la sensibilisation à l'économie de la fonctionnalité, à ces nouveaux business models de l'économie circulaire à travers des conférences, des workshops qu'on peut animer au sein d'entreprises. Leezy fait aussi partie du Club Circulaire, qui est un lieu de rencontre aujourd'hui entre grands groupes et startups engagés dans l'économie circulaire. Et surtout, avec Leezy, on essaye de pousser ces nouveaux business models. Donc on est régulièrement contacté par des grands groupes qui ont envie de passer à l'économie de la fonctionnalité. Et notre rôle chez Circulaire, c'est de pousser les solutions les plus pertinentes sur ce sujet. Et Leezy fait partie d'entre elles.
Ok, très clair. Avant de vous laisser la parole, Anna et Perrine, Raphaël, juste, est-ce que tu peux nous redonner un peu de contexte avec des chiffres clés sur le marché de la location en France?
Tout à fait. Alors déjà, peut-être pour revenir sur ce qu'est la location, j'aimerais bien revenir un tout petit peu plus sur la thématique de l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est l'objectif de vendre l'usage d'un produit plutôt que le produit lui-même. Et ça se traduit concrètement par la location d'un objet plutôt que la vente de celui-ci. Aujourd'hui, c'est un secteur qui explose. Si on prend juste le secteur du retail et des vêtements, c'est un marché qui est estimé à 1,6 milliard d'euros d'ici 2025, qui va doubler d'ici 2025. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que ça ne s'applique pas juste au marché des vêtements. Ça s'applique aussi au marché des meubles. IKEA passe à la location, à tout ce qui est bricolage. On va le voir avec Leroy Merlin, avec la téléphonie mobile. Donc c'est vraiment tout secteur confondu. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que ça répond à une problématique de pouvoir d'achat. En louant certains produits, on peut permettre à certaines personnes d'avoir accès à ces produits à un prix plus intéressant. Mais le plus important, et ce qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est le fait que cette économie de la fonctionnalité, cette location, nous permet de réduire drastiquement notre impact sur l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de mettre une multitude de produits sur le marché, eh ben on met un produit sur le marché qui va avoir de multiples usages. Donc on va utiliser moins de ressources. Et surtout, pour que cet objet soit rentable, on va avoir tendance à mieux le concevoir pour qu'il dure dans le temps et donc il y aura moins de déchets. Et quand on sait que l'empreinte carbone d'un Français aujourd'hui, c'est entre 9 et 10 et que 25% de cette empreinte carbone, c'est lié à la consommation d'objets tels que le textile, on est obligé d'aller vers des nouveaux modèles de consommation, réduire dans un premier temps, et puis repenser potentiellement la possession et aller vers la location.
Très clair.
Anna, tu as cofondé Leezy il y a 3 ans avec l'envie de transformer en profondeur le monde du retail et de faire passer ces acteurs de la vente de produits à la location. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as eu envie d'agir à ce niveau-là?
Alors, pourquoi j'ai envie d'agir? Parce que je veux que l'économie de fonctionnalité soit globale et industrielle. C'est-à-dire que moi, dans ma vision, un jour, tout le monde pourra emprunter des objets et les rendre aussi simplement que quand avant, vous envoyez vos lettres dans, à la poste, donc voilà, dans la petite boîte dans les rues. Et j'imagine vraiment ça, c'est qu'un jour on puisse rendre ces objets comme ça au coin de la rue sans avoir à biper, sans avoir à envoyer, sans avoir à imprimer une étiquette de retour. Donc ça c'est la vision, c'est ça qui me pousse à me dire ok, on va faire ça. Et ce que tu as très bien dit, on va vraiment réduire drastiquement la production d'objets neufs. Parce que c'est autant d'utilisation en plus, et de produits en moins, et de transport en moins, et donc de grandes maisons en moins, et de trajets domicile-travail en moins. Ça a énormément d'implications de se débarrasser de ces objets. En plus, ça libère l'esprit, c'est tout bien.
Je crois que tu as un objectif assez ambitieux qui est, d'ici 15 ans, de diviser par deux la production d'objets neufs, c'est ultra ambitieux. Mmh. Comment tu comptes faire concrètement ?
Alors déjà, en participant à ce genre de podcast, parce que tous les retailers qui nous écoutent vont voir à quel point l'histoire de Perrine et de Leroy Merlin est pertinente, premièrement. Et je sais que Perrine, tu vas en inspirer plus d'un. Voilà, parce que c'est pas une histoire d'un, donc c'est pas juste une histoire d'une marque, c'est une histoire de tous. Tous les retailers ont leur part à jouer. Et moi je crois que ce sera le business model dominant, et que l'achat sera réservé à des produits très très particuliers, très spécifiques, que l'on voudra garder ou pour lesquels on aura un aspect sentimental, mais pour la vie de tous les jours et les événements de la vie, il y aura la location, et c'est comme ça qu'on va arriver à cet objectif.
Et justement, pour les personnes qui nous écoutent et sans doute les retailers qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous partager déjà quelques facteurs clés de succès pour passer à l'économie de la location ?
Alors déjà, il faut pas avoir peur de rentrer dans l'eau froide, hein, parce que c'est nouveau. Ça, Perrine, je pense, nous en parlera bien. C'est nouveau quand on est là dans un lac à Annecy, qui est un peu plus froid que les autres. On met le petit doigt de pied, ouf, c'est froid, il faut remettre le pied jusqu'au genou. Donc en fait, c'est ça qui se passe, hein, ça change, c'est très transformant. On change les façons de faire un PNL, on change les façons de faire de la logistique, on change les façons de rentrer des fiches produits, on change les façons de faire du marketing. Mais oui, Perrine, tu vas nous expliquer tout ça. Donc il ne faut pas avoir peur de se jeter à l'eau petit à petit, on n'est pas des kamikazes non plus, on fait ça par étapes, et chez Lizzy, on est équipé pour ça, c'est pour ça qu'on existe. C'est d'aller du tout début avec, comme Decathlon, on avait 300 objets au tout départ, maintenant on est à plusieurs dizaines de milliers. Ben voilà, on a commencé par le doigt de pied, et maintenant on a la tête sous l'eau, mais parce qu'on nage de façon agréable dans cette économie de fonctionnalité aujourd'hui, parce qu'on a appris beaucoup. Donc étape par étape, mais il faut y aller.
Et pour rebondir sur ton image avec l'eau, je trouve qu'en fait c'est excellent, parce qu'on sait que l'eau froide, oui, c'est compliqué d'y rentrer, mais finalement c'est hyper bon pour la santé, donc c'est la même chose avec
exactement,
l'économie circulaire.
J'adore, je vais l'utiliser.
Ouais. Anna, du coup, on a beaucoup parlé là de la vision, on a pris beaucoup de hauteur sur le sujet, maintenant je pense que c'est intéressant de comprendre concrètement en fait ce que tu proposes, et l'idée c'est que tu puisses nous expliquer comment avec Perrine et Leroy Merlin vous avez réussi donc concrètement à travailler ensemble, qu'est-ce que vous faites en fait?
Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Alors,
plein de choses.
Ça a débuté évidemment avec des discussions, notamment avec l'ancien chef de Perrine autour de bière. C'est souvent ça se passe comme ça. C'est la petite anecdote marrante, mais finalement c'est là où on a des idées, on arrive à s'extraire du quotidien, de ce que peut être de diriger une équipe d'innovation. Voilà, on a plein de projets, mais donc de faire un petit pas de côté. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ah oui, on va... Pourquoi est-ce qu'on louerait pas des expériences chez Leroy Merlin, et lui qui connaît très bien, donc il s'appelle Nicolas, quand même le citer, qui connaît très très bien la clientèle de Leroy Merlin pour avoir fait énormément de tests et de tests qualitatifs notamment. Il a dit bah oui, c'est ce que demandent en fait, ce que demandent nos clients, c'est qu'on les accompagne dans leurs travaux, dans leurs projets. Donc ça c'est vraiment la ligne directrice de Leroy Merlin. Et comment on fait pour pas les encombrer avec toute cette multitude d'objets dont ils ont besoin, et comment on fait en fait, on va mettre ces objets là en location avec une date de début mais pas de date de fin. Ça aussi c'était une condition chez Leroy Merlin, on a envie de les accompagner mais pas de les stresser, parce que quand on fait nos travaux, enfin je sais pas si t'as déjà accroché un cadre
Rebelle. Bien sûr, régulièrement.
Tu commences le dimanche et en fait le lundi matin t'as prévu autre chose et tu refinis le dimanche d'après. Donc en vrai, nous on est là pour répondre Est-ce que Leroy Merlin connaît le mieux, est-ce que connaît le mieux Leroy Merlin, c'est son expérience client. Nous on connaît pas bien l'expérience client de Leroy Merlin. Et donc on amène l'outil technologique et de process logistique à Leroy Merlin pour rendre ça vivant, réel et avoir les premières données et puis piloter et monter à l'échelle.
Donc de façon hyper pragmatique, si j'ai bien compris, donc c'est une plateforme digitale aux couleurs du coup de Leroy Merlin sur laquelle on va retrouver les objets que propose Leroy Merlin et plus par usage. Donc j'ai envie de installer un luminaire et donc là je vais trouver tous les outils dont j'ai besoin pour
c'est
le
faire. Si je peux juste compléter, Lizzie, c'est ça, mais c'est surtout toute la gestion de flux qu'il y a derrière. Ça c'est 80% de notre IP, c'est la gestion de flux parce que tout ce qui s'en va revient. Et ça à gérer, donc on gère tous les produits de façon unique et c'est là où vraiment on aide Leroy Merlin à gérer cette complexité logistique dans l'économie de fonctionnalité.
Voilà. Ok. Hyper intéressant, ça on y reviendra peut-être tout à l'heure. Perrine, du coup, de ton côté, donc toi tu travailles chez Leroy Merlin en tant que Innovation Project Manager. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton poste et plus particulièrement en fait quelles sont tes missions liées à l'économie circulaire ?
Ouais, alors nous, notre rôle dans l'équipe innovation, en fait, c'est de défricher les sujets nouveaux pour l'entreprise, voilà, de mettre le pied à l'étrier, d'appairer Leroy Merlin avec les systèmes, les écosystèmes pertinents d'innovation, de lancer les premiers tests. Et tout ça, pour amorcer notre courbe d'apprentissage et pour gagner du temps sur accélérer nos cycles d'innovation, tout simplement. Et il se trouve que l'économie circulaire, c'est un sujet clairement identifié chez nous. En tant que leader de l'habitat, on a aussi ce rôle de décaler les lignes, de proposer des nouvelles façons de consommer à nos habitants. Et donc c'est comme ça que depuis plus de 2 ans, avec Anna, on échange et on bosse sur ce sujet-là.
Et du coup, Perrine, concrètement, grâce à Lizzie, vous avez maintenant une plateforme de location pour certains produits de Leroy Merlin.
Ouais.
Est-ce que ça s'adresse à tous vos clients? Et si ce n'est pas le cas, comment vous avez ciblé la clientèle?
Alors en fait, avant de lancer cette offre-là, nous, il y a eu plus de 2 ans de défrichage, de rencontres avec des startups, des retailers, beaucoup d'enquêtes clients. J'ai plus de 60 heures d'interviews clients à mon actif. On a fait ça avec l'équipe. Et donc nous, là, sur cette offre de location de kits d'outils, ce qu'on pressent, c'est qu'on va s'adresser finalement à une cible qui est plutôt peu expérimentée en bricolage, plutôt pas trop outillée, peut-être un petit peu plus urbaine, qui a moins la place pour stocker des outils. Voilà, et c'est pour ça qu'on a aussi cette pédagogie autour du kit. En fait, on dit plus au client, tiens, loue ta perceuse, on lui dit, loue le kit qui va te permettre d'aller au bout de ton projet, fixer une étagère au mur. On amène aussi avec cette offre davantage de pédagogie. Donc voilà, c'est ce qu'on pressent, mais maintenant le but du jeu, là, ça y est, on plonge dans le bain, mais c'est de venir aussi se confronter à notre marché et puis de valider ou pas ces hypothèses-là.
Et cette plateforme, concrètement, je suis un client Leroy Merlin, comment elle fonctionne? Je vais sur un site, comment se passe l'expérience client?
Tu viens sur notre site leroymerlin.fr, là rapidement tu vas être redirigé vers le site de location qui lui est hébergé par Lizzie. Voilà, c'est ce qui nous permet aussi d'aller vite quand on teste ce type d'offre-là. Et admettons, tu as un projet, on va reprendre l'exemple, fixer une étagère. Et donc tu vas pouvoir louer ce kit. Dans ce kit, il va y avoir une perceuse, un mètre, un niveau à bulle, tout ce dont tu as besoin. Tu vas le garder chez toi autant de temps qu'il te faut, un jour, 3 jours, 5 jours. Tu vas être facturé à la journée. Puis quand tu en as plus besoin, tu le renvoies. Ça repart chez Lizzie, qui réceptionne le kit, qui le reconditionne pour le remettre en location. Et la force de ce truc-là, je trouve, c'est vraiment d'être centré sur le projet du client, d'être hyper simple, hyper accessible, parce qu'en fait, on a aussi travaillé des prix hyper accessibles. Et puis ce petit plus, parce qu'on est customer-centric, comme on dit chez nous, c'est de proposer au client d'acheter quand même le petit, la petite vis, la cheville dont il aura absolument besoin. Pour aller au bout de son projet, en fait.
C'est une des questions que j'allais te poser, c'est est-ce que justement tu retrouves l'ensemble des marques et tous les objets de Leroy Merlin en location ou pas?
Alors pour l'instant, c'est concentré sur 7 projets habitants. Donc fixer un objet au mur, poncer un objet en bois, poser un carrelage, poser un parquet, nettoyer son jardin. Ouais. Donc c'est 7 kits qui vont être amenés à évoluer. On va aussi tester finalement l'appétence sur tous ces projets-là. Et on a choisi de travailler avec notre marque distributeur Dexter. Pourquoi ? Bah parce que tu le disais en introduction, mais finalement, le but du jeu, c'est de mettre une pression positive sur toute notre chaîne de valeur. Et plus tes produits sont qualitatifs, durables, plus tu les loues. Et c'est aussi là-dessus que bossent nos équipes chez Leroy Merlin et chez ADO. Donc ça faisait sens de travailler comme ça, en fait.
Et c'est une plateforme qui est accessible partout en France ?
Ouais, c'est toute France.
Et du coup, elle est active ?
Elle est active. Et donc là, c'est un premier... Un premier test qui va durer 6 mois, voilà. Le but du jeu, c'est de se tester, de réaliser nos apprentissages, et puis dans un temps d'eux, de venir cranter sur le sujet.
C'est ça qu'on fait chez Lizzie, surtout, c'est qu'on va aller collecter sur différents data points. Alors, c'est très tech, mais ça veut dire qu'il y a énormément de données qui sont collectées au niveau consommateur, au niveau produit, au niveau chaîne de valeur. Combien de temps est-ce que les colis mettent à revenir ? Enfin, c'est vraiment aussi ce genre de choses qu'on mesure, parce que c'est ça qui fait la rentabilité d'un projet et ensuite d'une solution de location. Un peu la baseline de Lizzie, c'est comment gagner de l'argent en produisant moins d'articles. C'est quand même bizarre, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc l'aspect économique sur tous les éléments de la chaîne de valeur sont mesurés, et c'est pour ça que Perrine parle de test. Voilà. Et donc là, on a mis le petit orteil et le pied avec vous dans l'eau froide.
Et c'est là où, du coup, vous êtes aussi innovant, finalement. C'est de changer de mindset et de montrer que c'est possible, en effet, de gagner de l'argent avec un modèle qui est différent que celui qu'on connaît depuis toujours. Ok. Et donc, Anna, de votre côté, vous travaillez aujourd'hui avec une trentaine de retailers, donc dans le bricolage, le textile, le sport. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs d'activité, en fait, avec lesquels potentiellement vous ne travaillez pas aujourd'hui, mais tu sens qu'il y a une adéquation avec ce nouveau business model ?
Alors, c'est très marrant que tu en parles, parce qu'en ce moment, on est contacté par tout le secteur du meuble et de la déco. Donc, ils ont tous... Alors, pourquoi ? C'est lié, tu le disais un petit peu tout à l'heure, Raphaël, c'est lié à la pression sur la matière première et sur l'approvisionnement. Donc, je vois Perrine qui acquiesce, parce que aujourd'hui, c'est plus comme avant. Je dirais que je suis vieille. Mais voilà, il y a une réalité physique, ça y est, enfin. La réalité physique tape à nos portes. Il y a moins de blé dans nos assiettes. Ça, c'est une réalité à cause de la guerre en Ukraine. Mais il y a aussi des problèmes pour remplir les rayons. Et on a des retailers avec qui on parle qui ne sont pas sûrs d'avoir des rayons pleins pour Noël. Donc voilà, ça y est, ça arrive dans notre quotidien. Ce fait que ce monde soit... complètement interdépendant, et que un cargo bloqué à Shanghai à cause du Covid fait en sorte qu'il y a 6 mois d'appro qui vont être impactés, et c'était Shanghai, maintenant c'est rouvert, mais maintenant c'est la Californie, les champs de coton qui ont complètement brûlé en Inde en mars. Voilà, ça veut dire qu'il y aura moins de t-shirts cet hiver. Tout ça est lié, et on voit bien que ces secteurs-là, ces secteurs nouveaux qu'on n'attendait pas, tapent à notre porte en disant ok, on fait quoi? Mais en fait, on change de business model.
Et ce qui est intéressant là-dessus, je rebondis, mais du coup, ça illustre très bien à quel point ces nouveaux business models circulaires permettent de créer de la résilience. Je ne sais pas si tu l'as vu de ton côté, Anna, avec les marques que tu accompagnes, et aussi Perrine, comment vous voyez ça comme potentiellement un moyen d'éviter ces chocs et ces hausses de prix sur les matières premières.
Typiquement, bon, je vais parler de Decathlon, parce que ça fait la 4e année qu'on travaille avec eux. Et il y a des tentes de trek, notamment, qu'on loue depuis le début. C'est autant de tentes de trek qui ne sont pas fabriquées et qui sont toujours en utilisation aujourd'hui. Et ça veut dire que cet été, il y a des gens qui vont quand même partir en trek avec des tentes louées, mais sauf qu'il n'y en aura même plus dans les rayons à vendre. Quand on pense à ça, c'est vrai que ça peut faire peur, mais non, en fait, c'est une solution. On est vraiment en train de créer quelque chose de nouveau aujourd'hui avec les retailers. Et le fait que Leroy Merlin y aille aujourd'hui, bah, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Ils prennent de l'avance sur les autres, ça, c'est sûr.
Et ça, c'est un vrai challenge pour nous. Finalement, comment, en changeant de paradigme, en ne vendant plus ce qu'on fait... Enfin, voilà, historiquement, nous, Leroy Merlin, ça, je caricature un peu, mais ça fait 100 ans qu'on achète des produits, qu'on les vend. Là, on se dit, on va louer. C'est waouh quand on y pense. Ça peut faire peur. Tout de suite, tu te poses. Il y a cette objection qui arrivait beaucoup au début de mais comment tu continues à créer de la valeur? Et finalement, c'est ça. Ce qui est assez magique, c'est que rapidement, quand tu commences à poser ton business model, tu te rends compte que plus tes produits sont durables, plus tu vas louer le même produit un certain nombre de fois. Et finalement, plus tu vas créer de la valeur, mais en consommant moins de matière. Et c'est ça qui est assez magique sur ces business models-là. Ouais.
Et si je peux rajouter quelque chose, on a l'impression que les gens veulent payer moins cher l'objet, alors ce qui est le cas, évidemment, ils vont pas payer plus cher, mais ils vont pas forcément chercher le prix à tout prix, ils vont chercher le service que ça peut rendre. Et donc, je suis sûre qu'on va le valider avec vous, Laura Merlin, mais on a déjà validé avec nos autres clients que le fait de ne pas le stocker tout le reste de l'année dans son dressing, donc c'est valable autant pour le textile que pour le sport ou pour le matériel du DIY, le fait de pas l'avoir dans son placard, ça a de la valeur. Et les clients sont prêts à payer pour ça. Donc, ils sont prêts à payer un tout petit peu plus parce qu'on vient leur chercher le produit. Donc voilà, on change complètement de paradigme aussi sur la consommation finale du client.
Et d'ailleurs, ça me fait penser à un post que tu viens de faire sur LinkedIn, Anna, qui était Profitability First, où souvent, une des questions et une des remarques que tu avais des entreprises que tu accompagnais, c'est oui, mais c'est pas profitable. Et en fait, je trouve que tu l'expliques très bien dans ce poste-là, qu'au final, tu peux créer différents flux financiers avec ces modèles-là.
Et oui, il faut vraiment penser différemment. C'est vraiment out of the box. Quand tu penses différemment, tu dis ok, qu'est-ce qui fait la profitabilité? Eh bien, en fait, chez Laura Merlin, ils l'ont compris, c'est d'envoyer plusieurs produits à la fois dans un même colis pour mutualiser les flux logistiques. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est clair que si on réfléchit aux produits, c'est pas profitable. Si on réfléchit aux kits et aux packs, c'est profitable. Donc, en fait, on est en train d'inventer des nouveaux PNL et c'est vraiment passionnant, qui vont être validés par la donnée et par l'expérimentation réelle. Donc, on est à l'aube de quelque chose d'assez grand, je pense.
Je reviens vers toi, Perrine. Comme le disait Anna, au final, ça va au-delà de votre industrie. Il y a le retail qui s'empare de cette thématique. Il y a aussi les entreprises du meuble comme IKEA. Toi qui as déjà enclenché la démarche chez Laura Merlin, est-ce que tu peux nous partager soit les facteurs clés de succès, soit les étapes clés pour mener cette démarche en interne? Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent « Bon, bah, très bien, ça y est, je suis convaincu sur la démarche, mais comment j'enclenche ça au sein de mon entreprise ?»
Alors bon, déjà nous, ça fait 2 ans et demi qu'on explore le sujet. D'ailleurs, quand je suis arrivée à l'innovation il y a 2 ans et demi, Lizzie, c'est la première boîte que j'ai rencontrée, la première start-up. Donc c'est génial parce qu'on suit en fait depuis le début. Depuis 2 ans et demi, on échange, on rencontre des start-up, on parle avec des retailers, on échange beaucoup en interne, on boit des bières pour projeter les futurs use cases, waouh.
Mais voilà. C'est pas bien l'alcool, hein.
Et après, les clés de succès, alors nous, l'équipe innovation, on n'innove pas en chambre, c'est vraiment un travail d'équipe et de collectif, là, en l'occurrence, faut savoir qu'il y a 45 personnes qui ont bossé de près ou de loin sur ce premier test chez Leroy Merlin. En particulier, on est hyper bien maillé avec les équipes du marché bricolage et jardin, avec qui on bosse depuis plus d'un an maintenant. Donc c'est ça, c'est fédérer les troupes en interne. Deuxième facteur clé de succès, c'est qu'on a reçu un mandat très fort de la part de nos dirigeants, qui souhaitent vraiment que Leroy Merlin fasse bouger les lignes. Donc forcément, quand t'as ce niveau de sponsorship, ça aide. Et puis, je dirais aussi cette capacité à s'entourer d'un partenaire comme Lizzie, qui a une expertise, qui t'accompagne, qui te challenge, qui porte les briques que toi, tu ne maîtrises pas. On s'en parlait tout à l'heure, la logistique. Ça, c'est vrai que c'est assez clé. Tout le back-office, la data, c'est clé, évidemment. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que petit à petit, on plante nos graines.
Oui, et si je peux rajouter, l'onboarding est hyper important. Alors, je me souviens d'un onboarding très drôle chez vous. Alors, on a bien rigolé, je crois. C'est la
on aime bien
fois.
Ce genre d'anecdotes.
Ouais, on a passé un onboarding très marrant. Mais pourquoi? Parce que je pense que tous les experts, ça, on avait tous les experts carrelage, les experts jardin, les experts percer des trous. Ils n'avaient pas bien l'habitude de se retrouver là autour de la table pour parler d'un nouveau business model. Et donc, ils prenaient ça vraiment dans la construction et la créativité. Et je pense que dès qu'on offre la possibilité à des collaborateurs d'aller dans la créativité, ça donne toujours quelque chose de très bon dans la relation qu'ils ont entre eux. Ça renforce les liens et ça peut donner que du bon par la suite. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec vous sur l'onboarding. On a découvert des gens super qui avaient envie d'aller très loin sur ce sujet-là. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'histoire de Laura Merlin, là, sur la location.
Ouais, et puis je crois que tout simplement, l'économie circulaire, c'est un sujet qui fait sens auprès de beaucoup de collaborateurs, qui est inscrit dans les grandes missions, la stratégie de l'entreprise. Donc forcément, voilà, ça aide aussi, quoi.
Pour revenir deux minutes à la mise en place, du coup, du projet de votre côté, combien de temps, en fait, ça a mis ? C'est-à-dire que tu viens de nous expliquer que c'est un sujet, l'économie circulaire, chez Leroy Merlin, notamment depuis 2 ans et demi, vous défrichez ce sujet-là, etc. Mais là, avec Lizzie, en fait, combien de temps vous avez mis ? Parce que peut-être que certaines personnes qui nous écoutent se demandent, OK, c'est peut-être un projet qui demande énormément de temps et ça peut potentiellement être un frein. De votre côté, ça a mis combien de temps ?
Juste le lancement du test, c'est 3 mois.
Hyper court.
Hyper rapide. Mais voilà... Mais parce que
on
c'est
confiante.
Ouais, parce que une énergie de dingue, un collectif de ma boule, un projet qui fait beaucoup de sens avec un bon niveau de sponsorship, donc voilà.
Ouais, donc ça c'est un point qui peut vraiment rassurer finalement quand tu réussis par le sens à embarquer sur un projet un collectif, ça peut aller vite en fait, même pour une grosse structure.
Oui, ça a été la même avec GoSport, là c'est la même avec Greenwiz, donc qui a été racheté quand même par Carrefour, c'est pas des petites boîtes.
Ouais.
Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de fond, c'est pas un signe faible là en ce moment. Il y a un tsunami sur ces équipes qui s'embarquent sur l'économie circulaire et qui y vont à fond. Donc ouais, voilà. Quand il y a une vision des dirigeants, tout se déclic et c'est assez puissant.
Perrine, du coup, juste là, on vient de voir les facteurs clés de succès. Comment vous avez réussi hyper rapidement à mettre en place Lizzie en interne ? Est-ce que malgré tout, il y a eu des freins pour convaincre ?
Je ne parlerai pas de freins parce que vraiment, le sujet aujourd'hui, on a tous envie d'y aller. C'est notre responsabilité de faire bouger les lignes. C'est des challenges. Celui du business model, on en a parlé juste avant, en est un typiquement. Il y en a plein d'autres, mais ça fait partie de nos missions de démêler les nœuds et on voit bien qu'on y arrive.
Ça a été fluide. Du coup, Anna, est-ce que c'est toujours le cas ? Ou est-ce que parfois, quand même, tu es confrontée avec certains clients à des freins à lever ? Auquel cas, quels sont ces freins ? Et du coup, quelle est ta réponse, en fait, pour les lever ?
Non, alors déjà, tous nos clients sont géniaux. Mais c'est pas une blague. Hein. Dans le sens où les gens qui y vont maintenant, c'est des gens qui ont... pris un pas d'avance, c'est des gens qui se projettent, qui ont une vision, qui voient les liens entre leur appro et le nouveau business model. Donc aujourd'hui, on n'est pas confronté à de vrais freins avec nos clients actuels parce qu'ils y vont. Alors il y a toujours des remaniements internes, il y a des choses qui sont indépendantes de nous, mais ça c'est la vie d'une boîte normale. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est vrai qu'on rencontre parfois des interlocuteurs qui ne sont pas encore nos clients et qui se posent beaucoup de questions à raison, mais parfois on dérive vers la croyance. Et donc quand on est dans la croyance, on croit que ça va pas marcher, on croit que le marché n'est pas là, on croit que ça va coûter trop cher, on croit que tout le monde va être impliqué et va tirer la tête. Voilà. Là pour le coup, nous on sait pas faire grand chose. Il faut juste attendre que l'exemplarité se mette en place et que tout se passe bien chez Laura Merlin. Vous inquiétez pas, ça fait pas mal. Mais voilà, il y a pas de vrai frein aujourd'hui technologique. On reste dans la croyance, c'est normal. On est en train de transformer un business model. Mais je pense que pareil, je me répète, mais on doit y aller tous ensemble. Et les premiers qui y vont, c'est ceux qui vont donner le ton. Et voilà, aujourd'hui, c'est Laura Merlin, Decathlon, Leclerc. C'est des grandes marques comme ça.
Perrine, je reviens vers toi parce que tu parlais tout à l'heure de quelque chose qui avait facilité cette démarche, c'était que la direction était convaincue de la pertinence de ce modèle-là. En fait, comment on est arrivé à les convaincre ? Est-ce que c'est eux qui se sont dit aujourd'hui il y a une urgence planétaire, une urgence en termes d'épuisement des ressources, de dérèglement climatique et on a envie d'agir ? Est-ce que ça vient plutôt de la galaxie Mulier ou certaines entreprises comme Decathlon qui sont un peu fer de lance sur ces nouveaux business models ? Comment cette... on va dire acculturation et le fait d'être convaincu sur cette thématique a été généré du côté de la direction.
Je crois que c'est un mouvement collectif au sein de l'association de l'AFM, quoi, des Mulliers. Moi, je pense que évidemment nos dirigeants ont conscience que bah voilà, à nous aussi en tant que leader d'aller faire bouger les lignes. Et puis c'est des sujets qui font énormément de sens de façon générale au sein des collaborateurs. Il y a plein d'initiatives. On n'est pas les seuls hein, à bosser sur ce sujet-là. Il y a plein d'initiatives qui naissent au sein de l'entreprise. Je vous prends un exemple qui est juste celui de la réparation. Qui n'est pas nouveau en fait, chez nous, parce qu'en fait, on est la première enseigne de bricolage à avoir mis en place des SAV dans nos magasins. Et voilà, juste sur 2021, on a réparé 336 000 produits. Donc voilà, dès qu'on peut, on est capable de faire ça. Et on voit qu'on continue dans ce sens-là. Là, du 30 juin au 13 juillet, on anime un événement autour de la réparation pour sensibiliser les Français au fait que parfois, plutôt que de jeter, on peut réparer. Donc, dans tous nos magasins, on va mettre en place des ateliers de réparation gratuits en partenariat avec des Repair Cafés en local. Voilà, donc c'est plein d'initiatives comme ça qui
j'adore.
Naissent, quoi.
Parce que c'est systémique, en fait, l'économie.
Exactement.
C'est plusieurs business models mis bout à bout qui font qu'on arrêtera de produire des nouveaux objets.
Ouais. Et là, très concrètement, voilà, on apprend. On n'est pas arrêté sur un business model, sur un use case. Il y a plusieurs pans. Il y a la réparation, il y a la seconde vie, il y a la location. Donc petit à petit, on réalise nos apprentissages, on découvre. Parfois, on se trompe, parfois, on recommence. Mais voilà, on avance et c'est le principal. Ouais.
Et ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que tu as dit que dès le départ, Laura Merlin a été dans cette logique de service après-vente, de réparation. Donc ça faisait aussi peut-être partie, dès le départ, de l'ADN de l'entreprise. Et donc ça a facilité la démarche.
Ouais.
Et puis l'autre facteur clé de succès, si je rebondis sur ce que tu disais, d'ailleurs on le voit dans les marques pionnières mais en termes d'économie circulaire, que ce soit Interface avec Uri Anderson, Patagonia avec Yvan Chouinard, dès qu'on a des directions, des directrices, directeurs qui sont convaincus par cette thématique, ça facilite grandement la tâche.
Ouais, carrément.
Et Perrine, tu parlais d'apprentissage, du coup, global, c'est le cas donc avec Lysis, vous êtes aussi en phase de test. Ce test, il dure combien de temps? 6 mois, c'est ça?
6 mois, ouais.
Ok. Et quels sont en fait les KPI ou les critères de succès que vous avez affiliés à ce test? En tout cas, comment vous allez réussir à mesurer l'impact d'un tel projet? Et mon autre question, c'est aussi savoir quelles sont les prochaines étapes à l'issue de ce test.
Ouais. Déjà, sur les KPI, le but du jeu, c'est tout simplement mesurer une attractivité de marché. Qui va louer quoi, pendant combien de temps, de collecter aussi de la data sur nos produits, c'est hyper cœur sur ce type de business model. Est-ce que nos perceuses vont tenir le choc ou pas? Est-ce qu'il va falloir revoir peut-être améliorer un petit peu nos produits pour qu'ils soient, enfin comment on fait pour les rendre plus durables? Donc ça c'est tout ce qu'on va venir mesurer avec Lydie, et après voilà les prochaines étapes ça sera de est-ce que l'offre en l'état elle plaît ou pas, est-ce qu'il faut la modifier, pour l'instant on est en 100% web, est-ce qu'il faut réfléchir à des parcours en omnicanal, voilà toutes ces choses là.
Et Perrine, j'imagine que cette initiative que tu as mis en place avec Lysis sur l'économie de la fonctionnalité, ces services de location, ça s'inscrit dans une stratégie quand même plus large liée à l'économie circulaire qu'a envie de mettre en place Laura Merlin. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette stratégie plus globale?
Ouais, voilà. Donc là, en fait, on est en phase d'apprentissage. Il y a 3 pans. Celui de la réparation dont je vous parlais juste avant, celui de la seconde vie. Là, ça y est, depuis fin d'année dernière, on a amorcé la pompe. On rachète des produits déjà utilisés que nos clients ne veulent plus. Donc voilà, là, la première étape, c'est de se constituer des stocks. Et quand ça ce sera fait, on pourra réfléchir à mettre en vente ces produits en seconde vie auprès de nos clients, quoi. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est celui de l'usage, location, abonnement.
Sachant que nous, on fait ça, racheter des produits chez les clients et les mettre soit en seconde main, soit en location. Parce que la vision chez Lysis, c'est de se dire que on aime bien se dire qu'il y aura une gestion monostock. Et donc, toujours pour parler de la marge, en fait, à terme, qu'on puisse diriger un produit soit vers la location, soit vers la seconde main, en fonction des targets de marge sur tel ou tel produit ou tel service. Et c'est ce qu'on va faire avec Mage, notamment, de racheter des produits, des mettre en location ou en seconde main. D'ailleurs, à toutes celles qui ont des mariages cet été, louez votre robe chez Mage.
C'est noté, j'en ai un en septembre.
Et peut-être, Anna, pour rebondir sur cette tendance qui est maintenant bien ancrée, ça implique quand même des changements de comportement chez les consommateurs, chez les consommatrices. Tout le monde n'a pas forcément envie de louer sa robe de mariée, de louer son jean. Donc comment, toi, tu arrives à convaincre ces gens-là?
Alors moi, j'ai arrêté de les convaincre. Maintenant, je fais faire ça aux marques. Et elles ont une puissance de frappe beaucoup plus puissante que la mienne. C'est-à-dire que, c'est ce que je racontais tout à l'heure, Leroy Merlin connaît très bien l'expérientiel de ses clients. Et en fait, c'est ça qu'on fait. On n'est pas en train de leur dire « changez tout, arrêtez tout, vous allez voir, ça va être vachement mieux, faites ça ». Non, on leur dit « vous faites comme avant, vous avez envie toujours d'accrocher une étagère, hein, ils ont toujours envie de faire ça ». Mais voilà, on va vous proposer autre chose, un autre service, une autre expérience, et ça va être tout aussi simple, voire plus simple d'ailleurs, de le faire, et vous aurez toujours la bonne cheville, vous aurez toujours la bonne vis à mettre dans votre mur. Voilà, et c'est comme ça qu'on va convaincre en fait. C'est convaincre de façon positive en créant des expériences positives. Voilà, aller camper, découvrir un nouveau sport, ça c'est avec Decat, se sentir la plus belle, et c'est pas négligeable avec toutes les locations de vêtements. Alors moi, je suis toujours habillée en 100% location et je suis devenue accro à la location. Mais voilà, pareil, comme pour les grands groupes, il faut rentrer dans l'eau, et les consommateurs aussi vont rentrer dans l'eau et vont trouver ça vraiment très chouette, parce que les retailers et nous, Lizzie, ensemble, on travaille très fort à créer une expérience sans couture. Ça, c'est super important. On n'est pas là pour s'embêter, en vrai. On est là pour s'éclater. Voilà.
C'est marrant parce qu'il y a ce mot expérience qui revient souvent, et j'ai l'impression que ce qui les convainc, c'est que tu offres plus juste un objet, mais vraiment une expérience. Decathlon ne va plus vendre une paire de chaussures, mais va te permettre l'expérience d'une course de qualité. Est-ce que justement, de ton côté, Perrine, avec Leroy Merlin, vous utilisez cet argument d'expérience qualitative pour convaincre vos clients sur ce sujet?
Ouais, bah comme le disait Anna, en fait, là ce qui est vraiment cœur dans ce qu'on est en train de mettre en place, c'est finalement le client et son projet. Et donc, c'est pour ça qu'on a conçu ces kits. Et après, à nous de faire en sorte que le parcours soit le plus... Enfin, que l'expérience soit la plus simple possible, que le parcours soit le plus fluide, qu'en quelques clics, que je puisse recevoir mon kit à la maison, le renvoyer... aussi facilement. Et finalement, je crois que c'est à nous de bien concevoir ces offres pour montrer à nos clients que c'est facile en fait, et leur montrer que c'est possible autrement.
Très clair. Et maintenant, sur l'aspect plus environnemental, on en parlait tout à l'heure, est-ce que vous avez des preuves concrètes qui montrent que l'aspect environnemental est plus vertueux si on passe de la possession à la location? Est-ce qu'il y a quelques chiffres clés à retenir là-dessus pour justement dire la location, effectivement, c'est un nouveau business model, mais aussi d'un point de vue environnemental, c'est très vertueux. On l'a vu avec la réfaction des ressources naturelles, le fait de faire durer un produit dans le temps. Est-ce qu'on est conscient de ça aussi côté grand groupe? Et toi, Anna, est-ce que tu t'en sers comme argument pour convaincre?
Clairement. Alors, c'est clairement un vrai argument. On est en train de mesurer. Ça fait partie de notre objectif. Pour rien vous cacher, on rentre en série A et on va engager une personne qui va faire que ça toute la journée, d'organiser la mesure d'impact pour nos clients et pour Lizzie aussi, de façon globale. Alors, l'argument qu'on a toujours contre, évidemment, c'est « oui, mais bon, il y a beaucoup de transport avec les locations ». Alors oui, c'est vrai. Mais en fait, ce transport, l'impact de ce transport est vraiment compensé par la non-production de tous ces objets qui viennent de vraiment... très loin, et qui nécessite énormément de matières premières, surtout pour je pense à la perceuse, mais tout l'électroménager, c'est du terre rare, c'est du plastique, c'est des métaux qui sont assemblés dans plein d'endroits différents. L'impact est tellement gros sur l'objet que les multitudes de transports qui vont se faire finalement que en France, par exemple ici, on va quand même avoir un impact plus positif sur la location. Sur le textile, c'est surtout l'impact eau. Parce que pour fabriquer du coton, je pense que vous le savez, il faut énormément d'eau. Et là, le fait de ne pas produire même deux fois, voire trois fois le même produit, on explose complètement les compteurs. Et avec la location, on diminue l'empreinte par produit divisée par 10, ça on l'a calculé sur le textile. Mais là, on continue Voilà, on continue le chemin, on n'a pas encore tout découvert et c'est pour ça qu'on était très data-driven et que je parle de partenariat avec nos clients parce que c'est ça qu'on fait. On construit avec eux ce calcul d'impact et on sait qu'il va être très positif. Donc l'avenir là, va nous confirmer tout ça.
Très bien. Et du coup, Lizzie, vous l'avez créé il y a 3 ans. Donc en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Ce qui a été votre cas, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les évolutions majeures de votre côté? Et une autre question aussi rattachée à ce sujet-là. Tu nous expliquais qu'au démarrage, en fait, vous vous êtes lancé avec cette plateforme SaaS, plus l'envie d'aider sur la partie logistique. De ce que je comprends, en fait, cette partie logistique, elle va de plus en plus loin aujourd'hui. C'est une vraie volonté de votre part. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, pour quelles raisons tu sens que c'est vers ça qu'il faut aller, en fait?
Oui, alors, en fait, avec Lizzie, on a vraiment attaqué le sujet de l'économie circulaire par la face nord. On s'est dit, allez, OK, on y va, waouh. qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de produits uniques qui s'en vont et puis qui vont tous revenir n'importe où et n'importe quoi. Allez, on fait ça. Et en fait, on a vraiment mis les mains dans le cambouis. L'idée, c'est qu'il y a des gens meilleurs que nous qui vont faire les interfaces clients. C'est pas du tout notre spécialité. Aujourd'hui, on le fait pour lancer très vite. Et c'est pour ça. D'ailleurs, je pense que Leroy Merlin nous a choisi, c'est parce qu'on va lancer très très vite avec notre interface. Mais en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est que on va recréer de l'emploi, ça c'est quelque chose qui me fait me lever le matin vraiment, on va recréer de l'emploi local dans les entrepôts logistiques sur de la remise à neuf et du contrôle qualité. La fabrication est partie de France, là elle va revenir en Europe en tout cas, sur ces nouveaux métiers et nous on veut être l'interface en fait qui discute entre les objets ces collaborateurs en entrepôt qui vont nourrir la plateforme, le logiciel et on va pouvoir apprendre énormément sur ce que ça veut dire la durée de vie d'un objet qui va être utilisé plusieurs fois. Et voilà, on est parti de quelques clients. Decathlon a été le premier client et on a beaucoup appris avec eux. On a beaucoup appris pendant 2 ans. On a fait un produit, donc un logiciel qui tient la route. Et là, récemment, dès qu'on fait une démo en fait de notre logiciel, tout le monde dit « Ah oui, c'est exactement de ça dont j'ai besoin pour commencer dans l'économie circulaire. » Donc ça a été ça l'évolution récente. Et aujourd'hui, on fait des partenariats avec des entrepôts logistiques qui sont spécialisés sur certains produits. Donc, on ne va pas mettre le textile, donc on ne va pas mettre petit bateau avec Leroy Merlin. Vous imaginez le truc. On perce des trous dans les habits. Non. Voilà, ça ne marche pas. Mais voilà. Je parle de petit bateau notamment, petit bateau qui étudie la possibilité de mettre la logistique chez eux. Et ça, c'est très nouveau aussi. On va vraiment aller vers là. Les marques vont reprendre la logistique chez eux et donc dégager plus de marge et rendre ça de plus en plus fluide et de plus en plus normal. Voilà. On a encore du travail.
Mais ça, c'est hyper cœur. La brique logistique, expédition et reverse logistique plus reconditionnement, contrôle qualité, reconditionnement des produits. Tu vois, nous, c'est une des raisons pour lesquelles on travaille aussi avec Lizzie, parce que là, vous êtes capable de la porter. Et nous, ça nous permet aussi... nous, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, ça nous permet aussi de gagner du temps et de s'appuyer sur vous, sur cette partie-là. Ouais.
Et Anna, justement, pour rebondir sur la question d'Alexia, qui disait que ça fait plusieurs années que tu es sur ce marché et que tu as vu certaines évolutions, que Lizzie a grandi. Est-ce que tu as noté aussi un changement de perception chez vos clients, chez les entreprises, chez les marques, et peut-être certaines appréhensions qu'elles avaient au départ sur le fait je loue des produits, je vais les récupérer, ils vont être cassés. Au final, au bout de 2 ans, tu t'es rendu compte que seuls 3% en fait, des produits qui revenaient étaient endommagés, donc ce n'était pas une vraie source de problème. Est-ce qu'il y avait d'autres idées comme ça sur la location qui sont déconstruites au fur et à mesure des années?
Oui, il y a celle que je préfère qui a été déconstruite. Là, plus personne n'en parle et je pense que c'est la génération Z qui est là, mais c'est quoi cette question? Quand on parlait en COMEX avant, on disait oui, mais c'est dégueulasse de louer des sacs de couchage, il n'y a personne qui va faire ça, burk burk. Et moi j'étais là, mais vous allez tous à l'hôtel en fait, hein. Il n'y a personne qui amène ses draps. Et donc en fait, il y avait un petit bug là. Et oui, et c'est ça qu'on a fait, on a créé le trusting entre le consommateur et la marque. Et donc maintenant, il y a toute une génération qui dit bien sûr, je vais dormir dans un sac de couchage Decathlon. C'est quoi le problème en fait? Un sac de couchage qui a déjà été utilisé. Il y a zéro problème. Et donc, ouais, cette question de l'hygiène n'est plus du tout une question maintenant. Mais elle a été longtemps, hein, depuis que j'ai commencé, depuis 10 ans. Ouais. Ça, c'est un très drôle exemple, mais parlant.
Et du coup, de ton côté, Perrine, côté Leroy Merlin, est-ce que vous avez développé justement des services pour capitaliser sur ce trusting qu'évoque Anna, cette notion de confiance vis-à-vis du consommateur qui se dit « Ah, je vais peut-être louer une perceuse, mais elle va être d'une qualité moindre, ou je vais avoir des vis qui vont être de mauvaise qualité parce qu'elles ont déjà été utilisées. » Est-ce que tu mets en place certains services pour permettre aux consommateurs d'être confiants de passer par ces services de location?
Non, bah c'est, en fait, je pense que c'est vraiment... donc, on s'appuie sur l'expertise de Lizzie pour la partie contrôle, reconditionnement. Après, c'est dans la pédagogie qu'on fait, dans la façon d'exprimer l'offre. Et puis aussi, je crois que de plus en plus, ce que les consommateurs valorisent, c'est pas tant le produit en tant que tel, mais c'est vraiment l'usage. Voilà, simplement de les rassurer sur le fait qu'avec ce type d'offres, de kits, ils iront au bout de leur projet. Mm.
Mais on est vraiment à l'ère, à l'ère Instagram qui est maintenant dépassé. On est à l'ère TikTok. Je ne sais pas quelle va être la nouvelle plateforme, ouais. Mais en tout cas, on voit bien que l'objet n'est plus au centre de l'attention.
Exactement.
Alors, il reste des beaux objets, mais c'est pour des usages différents. Mais en tout cas, l'objet de grande conso est plus au centre de l'attention. Enfin. Petit exemple de Shane, nos amis Shane, évidemment que je ne cautionne pas du tout. Mais voilà, le grand jeu, c'est le try on haul. Ça veut dire qu'on commande tout plein de vêtements, genre 20 vêtements, et on les essaye tous sur une vidéo YouTube ou TikTok, et après, on s'en sert plus. Bon, voilà, super. Et en fait, ça, c'est du pur usage pour faire son petit show devant sa caméra. C'est très chouette, mais en fait, en vrai, c'est vraiment un usage expérientiel de l'influenceur ou l'influenceuse avec ces produits-là. Et ça, c'est poussé à son maximum par les générations qui arrivent. Donc, il faut que les retailers puissent répondre à cette envie d'expérience et d'usage plutôt que de possession.
Et d'ailleurs, nous, chez Leroy Merlin, on aime bien échanger avec des étudiants. Et c'est hyper inspirant toujours. Et là, il n'y a pas longtemps, on a animé un TD auprès d'une école de commerce lilloise. Et c'était génial d'échanger avec eux. Eux, ils partent du principe que demain, Leroy Merlin, mais bien sûr, c'est normal, j'ai besoin d'une perceuse pour 2 heures. En fait, vous pouvez me la prêter, non? Et à aucun moment, ils se posent la question de est-ce qu'elle va fonctionner ou pas. Enfin, on a passé génial. Ce cap-là,
ouais,
en fait.
Ouais. Ah ouais. Ben,
on est vraiment dans l'usage.
Ouais. Ouais. Ils ont confiance en Leroy Merlin, ils ont confiance en la marque, et c'est une très bonne nouvelle pour les marques. Mm. C'est-à-dire que les marques qui ont tissé une relation forte de marque avec leurs consommateurs, celles qui vont sortir par le haut de ces nouveaux business models.
Mm. Et cette notion de confiance, elle est d'autant plus importante pour capter aussi les talents de demain. On l'a vu avec la prise de parole des étudiants d'AgroParisTech, les étudiants de l'ENS qui veulent plus faire de la recherche qui n'a pas de sens. Et donc, se positionner sur des sujets comme ça, où on offre une expérience et on garantit une certaine confiance vis-à-vis de cette expérience, elle va être nécessaire à la fois au côté consommateur, mais aussi pour capter les talents de demain et faire aussi rester les gens au sein de l'entreprise.
Exactement.
Ouais.
Et justement, peut-être une question pour vous sur un peu prospectiviste. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, louer son objet, ce sera devenu la normalité? À votre avis, ça va être quoi l'économie de la fonctionnalité, la location dans 10 ans? Est-ce que ça va être généralisé? Est-ce que ça va s'effondrer?
Ah, bien sûr que ce sera normal. Évidemment, de toute façon, je ne vois pas physiquement d'autres solutions que ça. On pourra produire moins d'objets. Donc, il va falloir qu'on trouve bien un moyen de les partager. Alors, il y aura différentes choses. Hein. La location, aujourd'hui, on utilise le mot location, mais il y aura le partage, le prêt, l'échange, réinventer les produits. Tous les secteurs vont réinventer leur façon de parler de la non-possession, en fait. C'est de ça dont on parle. Et pour moi, on va en effet se débarrasser de tous ces objets dans notre cave et dans nos greniers, dans nos placards. Et c'est là que sont les nouvelles mines à ciel ouvert, en fait, ou les nouveaux champs de coton, c'est dans nos placards. Et pendant tous ces 10 ans qui vont arriver, on va faire ça. On va aller chercher les objets là où ils sont.
Et en phase, c'est tellement plus simple et tellement évident et... Voilà, on le sent, nos clients nous le demandent de plus en plus. Et c'est génial de voir que tous les retailers, et pas que, s'emparent du sujet pour proposer de nouvelles façons de consommer. Et voilà, je pense que c'est aussi à nous de montrer la voie.
Pour finir ce podcast, on a une question pour toutes les deux. On sait aujourd'hui que pour initier tout changement, il faut généralement une prise de conscience et que cette prise de conscience, elle vient souvent d'un déclic, d'une rencontre. Et du coup, on aimerait savoir de votre côté quel a été ce déclic, cette rencontre qui potentiellement, toi par exemple Anna, pour lancer Lizzie et même les boîtes que tu as pu lancer avant, tu vois, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « allez, j'y vais ».
Ah, c'était il y a 10 ans. En effet, j'ai monté Telmi. Oui, on était le premier site e-commerce de location de vêtements d'enfants et femmes enceintes. Ça me paraît tellement une autre vie. Mais je sais que le déclic, c'est pas un déclic. C'est pas une belle histoire. Hein. C'est,
On t'oblige pas à la raconter.
Non, mais si, c'est que j'avais écouté une émission sur l'effondrement du Rana Plaza, très, très basiquement, en fait. Mm. Et je me souviens, j'étais en voiture, j'ai arrêté la voiture. Et en fait, il racontait l'histoire d'une petite fille qui était restée coincée sous la porte. Voilà. Vraiment, et j'ai eu cette image-là, en fait. Je me suis dit, ouf, il y a peut-être un tout petit problème, en fait. Et oui, pour que les gens à l'autre bout de la planète continuent à fabriquer des belles choses, mais un, pas des enfants, et deux, de façon très, très cadrée, avec des vrais salaires et dans des vraies conditions. Et pour faire de la qualité, bah, il faut trouver d'autres business models, en fait. Et c'est ça, c'est parti de là. Je me dis, comment on fait ? Et en fait, la non-possession... est venu de là. En fait, il faut qu'on partage des produits de qualité. Point. Comment on fait ? Bah, économie circulaire, c'est parti. Voilà.
Ok, de ton côté, Perrine, même si aujourd'hui, tu n'as pas forcément entrepris, mais tu fais de l'intrapreneuriat. Mmh. Du coup, pareil, qu'est-ce qui t'a marqué, en fait, pour te donner envie d'agir ?
Moi, c'est honnêtement... tout simplement, je me dis... ouais, c'est évident. Enfin... En fait, c'est tellement évident de consommer comme ça, pourquoi faire autrement ? Et aussi le goût du challenge, l'envie de faire bouger des lignes, et l'envie voilà, que le roi Merlin demain puisse faire bouger ces lignes-là en partenariat avec des super boîtes comme Lizzie. C'est un gros kiff.
Bon kiff.
Oh, et ben, on finira sur ce mot de kiff. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cet épisode des Circular Talks. Merci à Raphaël.
Merci à toutes les trois.
À bientôt.
Merci à vous.
Merci.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à lui mettre une note de 5 étoiles. Merci. À bientôt pour le prochain épisode.